Bien le bonsoir tout le monde, il semble qu'on est déjà en onde. J'ai pas le piton sur l'écouteur est pas à bonne place exactement. On va régler ça j'imagine dans les prochaines secondes, mais bienvenue aux amateurs de sport, très content de vous accueillir. Une émission complète ce soir et on a de la belle visite. On va parler de hockey bien sûr avec Danny Dubé tout à l'heure. Ron est déjà en train de s'installer, de démêler la paperasse et il y en a des notes. On va se parler des deux matchs du dernier week-end et on va aussi parler de la NBA ce soir, début d'une nouvelle saison. Ray est en train d'arriver, prépare la chronique sport business. Donc, du bon monde, du bon contenu, des bons sujets. Et on met la table tout de suite avec Martin McGuire. Bonsoir, Martin.
Allô, Mario.
Alors, aujourd'hui, l'histoire tourne autour de l'absence de Joel Armia et de la façon dont on va s'y prendre pour le remplacer.
Effectivement, alors une absence qui devait être d'un seul match au départ commence à se prolonger. Armia est blessé au bas du corps et il n'a pas joué durant le voyage. Il a été retiré dans les minutes qui ont précédé le match de samedi contre les Blues de Saint-Louis. Alors Mario, ça ouvre la porte à Nick Suzuki. Nick Suzuki faisait bien depuis quelques matchs sur le quatrième trio avec des présences en avantage numérique sur la deuxième unité et aussi en désavantage numérique où dans les dernier match, il a été même dangereux, il a créé des chances de compter. On l'a ramené avec Domi et Lekkonen aujourd'hui, on n'a pas touché au premier trio et comme Armia n'est pas là, on va demander à Nick Cousins de se placer à la droite de Kotkaniemi et de Drouin, un troisième trio qui est encore très hot par les temps qui courent chez le Canadien et Byron qui connaît un début de saison un peu plus difficile lui, est retourné sur le quatrième trio. On n'a rien changé à la défense Mario, il y a encore du temps d'entraînement. Aujourd'hui, c'était intense l'entraînement. L'entraîneur a voulu utiliser la journée d'aujourd'hui. Hier, c'était congé. La journée de demain et, bien sûr, l'avant-match de jeudi. Deux grosses journées d'entraînement dans une semaine quand l'équipe est à domicile. C'est très rare, Mario.
Armia qui a raté 25 matchs l'an passé à cause d'une blessure qui semblait pas si grave au départ. Tu te souviens encore de la collision qui avait causé cette blessure-là? J'espère que c'est pas la même blessure ou une blessure de même nature. Et as-tu l'impression qu'en coulisses, on envisage ou on commence à songer à un éventuel rappel d'un joueur du Rocket de Laval? On développera tout à l'heure dans notre prochaine conversation, mais est-ce que tu penses qu'on envisage ça déjà?
Ça reste à voir, Mario. Puis comme l'équipe est à domicile, ils jouent pas avant jeudi, ils ont le temps d'y penser. Mais tant et aussi longtemps qu'on aura 8 défenseurs à Montréal, Mario, je ne vois pas un autre attaquant être appelé.
Si on à moins qu'il y ait un gars, ça risque des blessés.
Oui, ben si on décide de bouger un défenseur, parce que aussi. Si on décidait de retourner Fleury, ce serait peut-être l'opportunité pour un attaquant. Je sais que les gens ont bien hâte de voir Ryan Poehling, mais on verra bien. Les choses vont mieux pour lui, Poehling, à Laval, depuis quelques temps, là. Alors, on verra ce que voudra faire la direction. Tantôt, Mario, je vais te parler de Brendan Gallagher, qui a franchi la marche des 300 points en carrière, et aussi du cap des 10 matchs que le Canadien franchira jeudi soir face aux Sharks.
Et l'évaluation du capitaine Shea Weber avec lequel tu t'es entretenu aujourd'hui. Alors, j'ai bien hâte d'entendre la vision ou la perception des choses par le capitaine Shea Weber. On se donne rendez-vous dans environ une heure, Martin.
À tantôt.
Et nous sommes avec Ron, tel qu'annoncé en tout début d'émission, en ce lendemain d'élection. Ron, as-tu veillé tard? Bonsoir dans un premier temps.
Veillé tard, minuit, coq pouce.
Tu regardes-tu les discours des chefs? C'est comme une conférence de presse d'un coach après un match, en quelque sorte.
Ouais, les gars et les filles sont épuisés, totalement faits à l'os. Tout le monde est fait à l'os. 40 jours, mais avant le 40 jours, c'est meeting par-dessus meeting, les préparatifs, tout ça. Puis, je veux dire...
On a un candidat comme invité ce soir. Un candidat sportif qui, tu sais qu'il y avait beaucoup de je sais pas si les conservateurs aiment particulièrement le monde du sport. Il y a une libérale, Lynn Bessette, qui après une lutte serrée a gagné son élection dans Brome-Missisquoi. Mais Richard Martel est le seul parmi les gars de sport. Angelo Esposito, ancien premier choix, s'est présenté pour les conservateurs. Richard a sauvé sa circonscription. On lui parle dans la deuxième heure de l'émission pour voir s'il y a des comparaisons. Il dit qu'il a vécu ça comme un match de hockey hier avec, tu sais, c'était 4-1 pour l'autre club, 4-2, 4-3. Fait
formidable, content.
On lui parle tout à l'heure. C'est difficile. C'est embêtant. Bêtant qu'un gouvernement minoritaire, quand tu t'es posé, as-tu gagné tes élections?
Il y a des risques. c'est ça. Il y a bien des risques à accueillir dans ses rangs des vedettes. Sylvie Fréchette en est un exemple.
Oui, défaite pour Sylvie, défaite pour Angelo Esposito, Bernard Barry, plusieurs candidats conservateurs, mais tu sais, il y a eu une vague bloquiste, on est obligé de le constater, même s'ils n'ont pas été élus dans toutes les circonscriptions, ils ont changé la donne. Bon, parlant de donne, le Canadien, bon, la donne change un petit peu, Armia, je ne sais pas si c'est bien sérieux, mais ça part de rien, comme l'an passé, tu te souviens-tu de sa collision, finalement, il manquait 25 matchs, ça ouvre la porte à Suzuki pour revenir dans un top 6 avec Domi, aimes-tu ça?
J'aime pas le fait qu'il soit blessé du tout, parce que c'était, d'après moi, avec Petrie, les deux meilleurs joueurs. Hein? Petrie, le meilleur défenseur, puis lui, d'après moi, pas mal le meilleur avant, si on considère...
tous les aspects, pas juste les points. Là.
Exactement. Ce qu'il apporte à l'équipe, autant offensivement que défensivement. Il a marqué des buts importants, tout ça. Il est fort, sa rondelle.
Il est fort, oui.
Lui, il devrait montrer à Kotkaniemi comment ça se passe. Tu sais, comment réagir dans tel cas. Puis, puis j'aime son attitude aussi à Armia. Je pense que là, si tu regardes ça, Mario, et les gens l'écoutent, là, franchement, là, certaines acquisitions et plusieurs d'entre elles de Marc Bergevin nous épate.
Et tu penses à qui? Parce que pas des acquisitions faites pendant l'été. Tu parles des dernières années.
Gabin. Je ne parlerai pas de Byron, parce qu'actuellement, Byron, il n'est pas sur la coche. Tu comprends? Mais Byron, pendant 3-4 ans, il était pas mal sur la coche.
Jusqu'à son nouveau contrat.
Ouais. Et sa blessure aussi.
Ouais.
Bon. Mais Byron a rendu des services incroyable aux Canadiens. OK, ça a été une belle acquisition. Pas coûté cher.
Vraiment, oui. Balotage.
Et on regarde les Tatars, on regarde Domi, les transactions, les acquisitions, ces acquisitions-là, Armia, Dano, un paquet de gars. On se dit, wow, attends une seconde, tu sais, il y a eu des mouvements personnels intéressants pour le Canadien. Et je garde la série sur le Sunday, là. Petrie. Moi, je me souviens de la transaction
de
Petrie. J'avais appelé mon ami Jim Matheson, qui travaille comme journaliste, travaillait comme journaliste à Edmonton. Puis je l'avais appelé, puis j'avais dit, parle-moi donc de Jeff Petrie.
Mm-hmm.
Oh, tu sais, Ron, lui, il est pas régulier. Il y a des soirs qu'il est là, des soirs qu'il est pas là. Des fois, il se lance à l'attaque, puis il devrait pas. Puis c'était vraiment pas fort. Tu sais, sauf que, écoute...
Est-ce qu'on proche à Mike Riley ici, exemple?
Ouais. Mike Riley, il se pense peut-être meilleur qu'il est vraiment. Bon, OK, on continue.
Non, mais j'étais juste...
C'est bon. Mais qu'est-ce que je disais, là? Ouais, alors Petrie, lui, là, Jim Matheson m'avait dit, toutefois, Ron, je vais te dire une chose. Il joue pour une équipe tout croche. Avec du talent, mais tout croche.
C'est dur de bien paraître dans une équipe qui n'a pas de structure. Hein?
Avec des choix de première ronde, mais personne ne sait. Tu sais, aucune direction. C'était difficile. Alors, peut-être que sortir de là, un peu comme Domi, sors de ton ancienne équipe, puis viens à Montréal.
Mais quand il est arrivé à Montréal, c'est une équipe qui avait de l'enthousiasme, qui participait aux séries, Ron. Mais il y a une affaire que je comprends pas dans le cas de Petrie. Comment ça se fait que ça a pris tant de temps que les gens parlent en bien? Je dis pas que les gens, c'était pas le gars qui se faisait éplucher là ou maganer dans les tribunes, mais tu sais, dans les conversations qu'on l'an passé, ouais, mais on n'a pas. Tu sais, quand on parlait de la fameuse hiérarchie des défenseurs, un numéro un, numéro un, on n'a pas de numéro deux. Petrie, c'est un 3, un 4. Hey, voulez-vous bien? Petrie? Moi, ce que je vois, c'est un 1. Je veux dire, y a-tu des meilleurs 1 que lui dans la Ligue nationale? Oui. Il y en a-tu des pays? Je pense que oui.
Ben, en tout cas, c'est notre 1.
Si tu n'avais un meilleur que lui, ben tant mieux. Il serait un excellent 2. Mais j'ai jamais compris qu'on soit aussi réticent à y donner cette place-là. Il a peut-être fallu la blessure à Weber puis une longue absence
pour
qu'on le constate. Puis même là, c'est ça.
Puis même là. Mario, lorsque tu es un défenseur dans la Ligue nationale, si tu n'as pas un atout, certain, style, c'était pas bien offensif, Eric Carlson, puis Piquet avec ses folies, puis ses tourniquettes, tout ça. Si t'as pas quelque chose d'exceptionnel,
faut que tu sois bon
les
dans
gens
tout.
Ont de la misère à, comment dire, à t'apprécier à la juste valeur. Tu comprends?
Oui.
Les gens ont de la misère. Tu sais, tu regardes la défensive du Canadien actuellement, moi, je trouve Mété excellent, tu sais. Il est pas dans la bonne chaise, mais je le trouve excellent. Il fait ce qu'il a à faire, puis il, pour un petit bébé jeune comme ça, puis tout ça, j'ai plus de upside qu'appelle, c'est-à-dire des côtés positifs pour Mété, que dire, lui, là, ton minouche, là, tu sais. J'ai même entendu un journaliste me dire, à un moment donné, cette année,
Quoi donc?
Lui, il va finir. Il va finir dans le KHL.
Mettez!
Ouais. Puis moi, j'ai répondu à ça tout de suite. J'ai dit, puis c'est un ami, tu sais. J'ai dit, hey, écoute bien.
T'as le droit d'en échapper.
Écoute bien, l'ami, là. Il n'a pas marqué de but en 125 matchs dans le temps, là, tu sais. C'était bien raison, là. Mais il faut dire l'affaire de l'ami. Ce gars-là, s'il quitte Montréal, là, il va se trouver un endroit, là, dans 20 équipes dans la Ligue nationale. Fait que là, arrête. Parce que, mais là, c'est parce qu'il est dans la mauvaise chaise. Jeff Petrie est le numéro un défenseur, puis Weber est le numéro deux.
Mais
là, c'est moi juste.
Il faut que j'ajoute quelque chose, puis je veux pas me répéter, puis être redondant pour les gens qui m'ont entendu en parlant en nombre. J'ai pas eu cette conversation-là avec toi. Mm. Un petit quiz bien vite, là. D'après toi, c'est qui à la ligne bleue du Canadien depuis que Mété est dans la ligue, pour avoir une comparaison juste, qui domine les plus et les moins chez les défenseurs du Canadien?
Dans les défenseurs actuels?
Oui, ouais, depuis que Mété est dans la ligue. Depuis que Mété est avec le Canadien.
Les défenseurs actuels du Canadien actuel. C'est parce que c'est. Moi, je dirais.
C'est Mété.
Mais lui, je dirais lui, mais la fin qu'il y a, c'est que parce que les gars qui sont là, ils n'étaient pas là avant. Sherrod, puis Fleury, puis Paulin.
Non, mais Weber, t'as là, il manquait des matchs.
Non, c'est
plus 23. Weber est plus 7 pendant la même période. Weber est plus 7 pendant cette période. Ça ne dit pas tout.
Mais c'est parce que Weber, il joue.
Non, mais quand on me dit qu'il ne peut pas. Puis il affronte pas les piments de l'autre bord, là,
Mété. Non, mais c'est parce que Weber, il a joué 5-6 de plus que lui par match. Puis qui était plus difficile.
C'est sûr. Puis dans des situations critiques. Puis, mais.
Non, mais t'as raison. On savait.
Je veux juste dire que, regarde, il est plus 23. Il y en a qui se font plaisir de dire un tel est moins 10 puis moins 15, comme ça valait
mais
de quoi.
Mais c'est comme Mété.
Quand
là,
un gars est à plus 23, il doit avoir fait quelque chose de correct quelque part, tu sais.
Avant qu'il marque son but, puis on a vu la réaction du public lorsqu'il a marqué son but. Oui. En passant, sa chanson, ça vient demain, là. Je l'ai prête demain soir.
Monsieur Mété. Oh non.
Non, c'est plus espagnol-italien, parce que c'est italien. Ou tu m'as t'étais pas italien.
Ah oui, c'est italien, Mété.
Mais Mété est totalement italien. Okay, okay. Calabrese.
Oh!
Son papa, Calabrese.
Bon. Fait que j'ai hâte d'entendre ça, Moran.
Entendre quoi?
Ben, la toune.
Ah, OK, je pensais que tu voulais.
Tu me donnes une
la vie de son père. Non, OK, c'est quand même. Attends, t'es de face. T'es de face. Qu'est-ce que je disais, là?
Ouais. T'es aussi bien de chanter parce que là, je pense pas que je vais aller dans le bon.
Non, c'est juste le fun. On a juste le fun. On a juste le fun.
Ouais, mais on parlait en tout cas des plus, des moins. Parce que ça vaut. Mais Mété, t'as dit la toune, puis là, on était rendu là. Là, on est rendu après la toune qu'on n'a pas entendue, qu'on va entendre demain.
Bon, écoute bien, là. Écoute bien, là. Weber.
Oui.
C'est un autre, là. Les dards sortent. Ça sort. Les dards. Ah ouais, parce que Weber, mon doux qui a ralenti. Jeudi, il a joué un fort bon match.
Ouais, ou bien, tu sais, du monde. T'sais, on en connaît des collègues, ils veulent pas être vus comme un persécuteur de Weber.
Non, mais.
Fait que là, il arrive, il dit, ouais, mais. Weber, toi
qui t'en parles.
Tu sais, c'est comme. Tu ouvres le sujet tranquillement.
ouais, c'est ça. Mais Weber, laissez-moi juste vous dire une affaire. Weber, là, à part cette année, là, il y a encore 2 ans à 6 millions. Puis des joueurs, défenseurs qui jouent 25 minutes comme Weber, là.
Mm-hmm.
6 millions, c'est correct. C'est même très correct. Puis Weber, là, ouais, mais ton problème, Ron, c'est parce que toi, t'es pas au courant. Ça se peut. Pas au courant de quoi? Mais son contrat, je vais jusqu'à 25-26. Mais c'est parce que moi, je vais vous dire une affaire où je suis au courant, par exemple. Weber a 1 million pendant les 3 dernières années de contrat, là.
Ouais.
Il jouera pas.
Je serais bien étonné, en tout cas.
Comprends-tu?
S'il joue, ça ne sera pas par motivation financière parce que le gros de son contrat, il va l'avoir recueilli.
Il jouera pas. Puis l'année avant ça, là, il gagne 3 millions.
Fait que tu étais en train de nous annoncer que Weber va prendre sa retraite en 2022 ou 23.
Exact. Ou 23 si on accepte Weber comme on acceptait Markov.
Il y a 34 en ce moment.
Ouais. Okay. Il va jouer 35 l'année prochaine.
Mm-hmm.
36, une autre bonne année. Puis 37 à 3 millions.
OK.
S'il réussisse à le convaincre puis à payer son stationnement. Parce que ça ne paraît pas. Tu comprends?
Oui.
Parce que ça va être comme Markov. Ça va être comme Markov. Markov, tu veux-tu jouer une dernière année? Tu as un contrat, 3 millions. Fais-toi donc plaisir. Je joue avec nous autres une autre année. Uh-huh. Peut-être qu'on va être proche d'une Coupe Stanley à ce moment-là. Peut-être qu'il jouera un rôle important. Mais les 3 dernières années de son contrat, là, tu sais, quand les gens s'obstinaient, disaient Weber, on vient de prendre un contrat trop long. Non, il n'y a pas de contrat trop long. Il fait 1 million les 3 dernières années, il ne jouera pas.
Il savait ce qu'il faisait de toute façon en allant le chercher.
Ouais.
Hein? C'est. Mais, dans le cas de Weber.
Mais à 6 millions, Weber a joué comme il joue
là. Pas de problème là.
Moi, c'est bien
il en prend 7,8 sous le cap salarial, monsieur.
Le cap, ça, c'est une autre affaire. lui, il s'en fout, le cap. Lui, il s'en fout. Il sait que les trois dernières années, à faire un million, il n'aura pas se casser les margoulettes.
À comme un million.
À un million.
Ouais. À moins qu'on le prolonge à 37-38, Ron.
Ben non, tu peux pas donner de... Tu sais, le contrat est signé. Ouais. Tu peux pas rien faire.
On verra quel genre d'hockey il nous offre. Mais c'est drôle.
Un abonnement au théâtre du CEP.
Tu nous plonges dans l'avenir un peu, tu sais.
C'est le fun.
Ouais, c'est le fun. Bon, mais on va continuer de jouer la même game, tu sais.
Vas-y.
Je sais que c'est un petit peu prématuré comme discussion, mais c'est sûr que tu sais que les GM, dans leur bureau, sur le tableau, puis avec l'actuaire à côté, puis le comptable, ils regardent comment ça va coûter dans un an, dans deux ans, dans trois ans, puis mine de rien, toi, Ron, t'aimes les chiens. Hein?
Ouais.
Je sais pas si tu sais.
Raoul, là.
Raoul.
T'as pas à nous rendre. On l'aime, on l'adore.
Puis tu sais que Marc Bergevin a dit que si tu veux de la loyauté, tu t'achètes un chien.
Un chien.
Et là, moi, je suis curieux de savoir, parce que quand tu dis, là, l'ultime guerrier du Canadien depuis qu'on y avait à face la première fois dans l'uniforme du Canadien, tu serais-tu d'accord pour dire que Brendan Gallagher, ça ressemble pas mal à ça.
C'est lui.
Tu sais que lui, c'est une méchante aubaine actuellement dans la Ligue nationale.
Encore une fois.
Fait que, mine de rien, il est le premier pointeur du Canadien. Il est le premier buteur depuis une couple d'années. Il est le premier pointeur en ce début de saison. Puis, il est à l'avant-dernière année de son contrat. Ça veut dire que, après l'année qui finit là, l'an prochain, on va commencer à entendre plus parler de son contrat. Puis là, on va se dire, coudonc, est-ce que Marc Bergevin va être loyal à Brendan Gallagher? Ou il va se dire, il va avoir 30 ans. Est-ce qu'on va lui donner 6, 7, 8? C'est un marqueur de 30 buts, là. Combien on va lui donner par année? Puis combien d'années? Je sais que c'est un peu en avant.
C'est le fun d'en parler parce que parce que Domi, lui, l'année prochaine, sa dernière année de contrat. Alors, Domi, lui, si jamais il connaît autant de succès cette année et l'année prochaine, il va demander minimum 6,5-7 par année.
6,5-7?
6,5 ou 7.
OK.
OK, dépendant de la longueur du contrat.
OK.
OK? Parce que s'il connaît du succès cette année comme l'année passée.
Pas s'il va demander plus, mais dans ces eaux-là, j'imagine que ça va jaser.
Okay? Bon, okay.
Un point par match, c'est sûr qu'il y a des outils pour jaser.
Bon, alors, il a connu une excellente saison l'année passée. Oui, il connaît une bonne année pour l'année prochaine.
Oui.
Mais là, Gallagher, lui, un an après, c'est à son tour.
Exact.
Il a 30 ans. Là, il demande combien?
Il incarne le leadership.
Ben, je ne peux pas demander moins de Domi.
Ben, je pense pas. Il domine les marqueurs, les
Pas juste ça. C'est le leader indiscutable de cette équipe. C'est la bougie d'allumage. C'est le gars qui se donne, il se défonce. Domi aussi, mais jamais comme Gallagher. Puis Gallagher marque des buts importants. Puis Gallagher dérange. Et veut dire, non, attends une seconde, là. C'est Gallagher, là. Tu me demandes à 25 ans, lequel des deux est-ce que tu prends? Gallagher ou Domi? Moi, c'est tout de suite Gallagher. De 25 ans, c'est les deux, c'est Gallagher. C'est fini. À 30 ans, quel des deux tu prends? Si les deux sont en santé, c'est encore Gallagher. Gallagher devance toujours l'autre. Sauf qu'il y a quelques années de différence. Là, il y a trois ans et demi, quatre ans de différence. Mais non. Alors, si tu donnes 7 à Zone la Trimouille, est-ce qu'à Ferdinand Gignac, tu en donnes moins que 7? Tu vas comprendre.
Juste pour ajouter dans l'équation, Tatar Dano arrive en fin de contrat en même temps que Gallagher. La ligne au complet.
Oui, mais Tatar que j'adore.
À 30 ans, comment tu penses qu'on va donner à Gallagher? Le fun. L'an prochain, au 1er juillet, on va pouvoir commencer à négocier avec déjà.
Je pense que Gallagher, là, disons, on s'y prend bien à l'avance, toi et moi.
Oui, oui.
Le Canadien et Marc Bergevin ont toujours pensé que Gallagher... écoute bien l'expression que j'utilise, c'est très important. Tu la traduiras, si tu veux.
OK.
Ils ont toujours pensé, Marc Bergevin et le Canadien, que Gallagher ne t'offrait pas la run. C'est une belle expression, ça.
C'est très, très... J'ai pas besoin de traduire, tout le monde a compris.
Ne t'offrait pas la run. Je suis persuadé que Marc Bergevin et les entraîneurs de Gallagher, Michel Therrien inclus, croyait que Gallagher était tombé au combat à un moment donné de façon sérieuse. À part ses mains, là...
Il y a eu deux années de suite où il a manqué pas mal de matchs, puis là, on s'est dit, oh, il est petit, il se blesse souvent, puis finalement, il y a juste deux années qu'il n'y a pas eu des saisons complètes.
Tu ne peux pas jouer du hockey comme ça, avec l'intensité de Gallagher, à tous les matchs, te présenter devant l'adversaire, le visage d'un gars de 6 pieds 4 qui t'attend. Tu ne peux pas sans te retrouver à l'hôpital un moment donné, sérieusement aussi.
Hey Ron, on touche bois. Je suis suspendu à tes lèvres, mais là, j'ai presque oublié d'ouvrir l'émission tout à l'heure, puis là, j'ai oublié de faire la pause. Il faut faire la pause.
Ouais, ouais, vas-y.
Mais moi, penses-tu que Marc Bergevin voit Gallagher comme un leader? Parce que nos collègues de la presse nous disent, Guillaume Lafrançois nous rapportait dans Sortie de zone, notre balado, hier, que par deux fois, il a donné l'occasion à Marc Bergevin de nommer, d'identifier ses leaders. Et il n'a jamais nommé Gallagher.
C'est une autre affaire.
T'es sûr?
J'ai la réponse à ça.
On vient après la pause.